Radio Cocati, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Irénée. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Voilà, nous parlons des échecs scolaires. Vous savez, dans un mois, c'est la fin du premier trimestre dans plusieurs écoles. Les élèves vont subir des examens qui permettent d'évaluer leur niveau des connaissances. Les parents et l'école devront aider ceux qui vont échouer à améliorer les résultats. D'après les experts, l'échec scolaire peut être dû à l'inadaptation de l'enfant à l'école. Alors, comment l'aider? Le professeur Yaouidi est spécialiste en matière de l'adaptation scolaire des enfants. Alors, dites-nous, professeur, si un enfant échoue aux examens, quelles sont les causes, les différentes causes qui l'ont amené à ces résultats-là?
Merci pour l'invitation et merci aussi pour la question que vient de me poser. Mais avant que je puisse définir les causes qui peuvent être à la base de l'échec d'un enfant à l'école, il faut nécessairement que dans notre pays, nous puissions revisiter la notion de l'échec scolaire. Le fait d'avoir mis beaucoup plus d'accent sur les chiffres, ça pose un autre problème dans notre pays. C'est pour cela que nos enfants obtiennent toujours des chiffres, des notes qui ne correspondent à aucune réalité liée à leur personnalité, à leur capacité. C'est pour cela, moi, j'ai toujours proposé à ce que nous puissions revoir la manière de lire les notes scolaires, la manière de présenter nos bulletins. Et lorsqu'un enfant obtient 7 sur 10, pourquoi devons-nous dire qu'il a réussi? Lorsqu'un enfant obtient 4 sur 10, pourquoi devons-nous dire qu'il a échoué? En fait, j'aurais voulu que lorsque on dit d'un enfant qui a obtenu 4 sur 10 en calcul écrit, qu'on puisse beaucoup plus définir sa situation scolaire, sa note scolaire en termes de difficultés ou d'atouts. Alors, on pourra peut-être dire que cet enfant qui a obtenu 7 sur 10 en calcul écrit est fort en addition, en soustraction, mais éprouve des difficultés en division et en multiplication. À ce niveau-là, là, on identifie l'échec de l'enfant en termes de capacité, en termes de difficultés
et
de ses faiblesses. Là, on peut apporter de l'aide. Mais lorsqu'on doit considérer mettre l'accent sur les chiffres, ça nous pose des problèmes. C'est pour cela que vous allez entendre un enfant dire « Je n'ai pas de poste à 50%. » Mais ça n'explique pas les compétences de l'enfant. Ça n'explique pas les atouts de l'enfant. Alors maintenant, pour revenir avant
de dire que le système d'évaluation doit être revu.
Nous devons revisiter cela. La notion de l'échec et de la réussite doit être revisitée. Les bulletins que nous présentons, que nous soumettons à la signature des parents, doivent être revisités. Il faut qu'on puisse recourir aux spécialistes de façon à ce que nous arrivions à apprécier les capacités de nos enfants, de façon à ce que lorsqu'ils passent des classes ou ils terminent un cycle d'études donné, ils soient capables d'être utiles à notre société. Mais si nous mettons exagérément l'accent sur les chiffres, c'est ce qui nous pose problème. C'est alors que vous verrez même un enseignant donner 9 sur 10 à un enfant parce que celui-là, il a été le premier à payer les frais d'études. On donne 2 sur 10 à un autre enfant parce que celui-là, il ne paye pas régulièrement ses frais. Vous voyez ça? Alors, quelle est la signification que nous accordons à une note? Et comment pouvons-nous apporter de l'aide à un enfant qui éprouve des difficultés scolaires? C'est en ces termes que j'ai dit que nous devons revisiter la notion de l'échec et nous devons réqualifier les bulletins que nous soumettons à la signature des parents.
Maintenant, un enfant qui échoue, qu'est-ce qu'il y a à la base?
Voilà. Maintenant, il faut nécessairement que nous sachions que l'échec, un enfant peut échouer par maladresse, ou bien par faiblesse, ou bien par mauvaise disposition, ou négligence, ou inaptitude. Ça, c'est une des possibilités d'explication de l'échec d'un enfant. Une autre explication, un enfant peut échouer par incapacité, c'est-à-dire un défaut d'une adaptation en classe. L'enfant n'arrive pas à s'adapter aux activités scolaires dans les groupes de travail. Et aussi, lorsque nous parlons de l'inadaptation, nous devons savoir que l'inadaptation peut être une réaction normale face à un stimuli négatif du milieu, un conditionnement négatif du milieu.
Un exemple,
c'est-à-dire que l'enfant étudie dans une classe qui n'est pas aérée. Il ne peut pas se concentrer. comme il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas réagir comme il faut positivement aux questions qu'on lui pose. C'est-à-dire que là, l'enfant échoue. C'est parce qu'il a subi l'influence négative du milieu sur lui.
Mauvaises conditions dans la salle de classe.
Mauvaises conditions. C'est ce que moi j'appelle un conditionnement négatif. Donc l'enfant peut se révéler inadapté à la suite d'un conditionnement négatif du milieu sur lui. Cela veut dire que les conditions dans lesquelles un élève, un enfant étudie doivent être les meilleures. Et il faut que nous puissions mettre l'accent sur cela. Nous devons comprendre qu'un enfant, pour qu'il puisse réussir, il doit nécessairement être placé dans une classe qui répond aux conditions ergonomiques.
Normalement, dans une salle de classe, il faut qu'il y ait combien d'élèves
selon notre loi, la classe ne peut pas dépasser 45 élèves. Alors, en fait, on
est deux élèves par banc.
Pour éviter ce qu'on appelle une classe pléthorique. La classe pléthorique, ça sera un peu difficile que l'enfant puisse se concentrer. Parce que souvent, il n'a même pas de place pour s'asseoir. Il va beaucoup plus s'occuper de son ami qui est en train de le pousser parce que son ami est tout seul, il n'est pas pour s'asseoir. Voyez, et que la concentration beaucoup plus de l'enseignant sera portée sur des enfants qui excellent plutôt que ceux qui sont en retard de compréhension. Et la classe pléthorique, c'est ça aussi un autre conditionnement négatif qui peut amener à l'inadaptation scolaire. Et l'enfant...
L'enfant peut être distrait, alors que, comme il y a beaucoup de gens, le professeur ne contrôle pas ceux qui sont au fond de la salle, ils peuvent être en train de causer, de se raconter des petites histoires pendant que l'enseignant donne son cours.
Là, c'est tout à fait normal, la distraction, et le fait, c'est un facteur qui a été occasionné aussi par quelque chose.
Voilà.
Alors, dans ce sens, là, nous disons que lorsque l'enfant ne fait pas ce qu'on attend de lui, cet enfant-là est inadapté. Mais il faut que ça soit de manière répétitive. Parce que je soulignais bien que l'enfant peut échouer simplement par simple maladresse. Mais il peut aussi échouer par incapacité. Cette incapacité-là peut se définir en termes d'inadaptation. Et l'inadaptation ne serait rien d'autre que la réaction à un conditionnement négatif du milieu. C'est pour cela que nous devons revoir les conditions dans lesquelles nos enfants sont en train d'étudier. Il ne faut pas que le parent envoie son enfant à l'école et ne pas se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles l'enfant doit être placé. Un parent ne peut pas prendre la décision d'inscrire son enfant dans une école qui n'a pas de banc. Un parent ne peut pas prendre la décision d'inscrire son enfant dans une classe qui n'a pas de craie, qui n'a pas de tableau, qui n'a pas de matériel didactique.
Ça, c'est pas sûr.
Pas de
toiture. On apprend que dans ce pays, il y a des enfants qui étudient même dans la nature, sous un arbre, parce que, l'école, la toiture a été emportée par une forte pluie, voilà.
Il n'y a pas
de bancs dans la salle de classe, moi, ils doivent se mettre sur des bambous.
Nous sommes un pays exceptionnel. Et nous posons des actes aussi exceptionnels. Mais lorsque je dois parler de la réussite de l'échec, moi je vois un pays sérieux qui doit comprendre que l'acquisition des connaissances scientifiques doit se soumettre à certaines exigences. Et ces exigences, nous devons les connaître. Pour qu'un enfant ne soit pas distrait en classe, il doit être dans quelles conditions? Pour qu'un enfant soit intéressé à suivre un cours, en face de lui, il doit être en présence de quel type d'enseignant? Pour qu'un enfant ne puisse pas changer chaque fois de place ou soit déchirer son papier alors qu'il devait suivre les cours. Il doit être dans quel type de conditions. Tout cela, ça doit être étudié. Mais on ne peut pas seulement envoyer un enfant à l'école. Vous savez, dans notre pays, nous envoyons parfois des enfants à l'école sans stylo, sans cahier, sans livre. Et nous nous attendons à ce que cet enfant puisse être transformé ses talents en capacité. Donc c'est tout à fait anormal. Ce sont là les éléments qui peuvent contribuer à l'échec d'un enfant à l'école. Au lieu de penser qu'il faut faire appel à un pasteur pour organiser une veille de prière afin d'attendre que l'enfant puisse réussir alors que l'enfant subit les conditionnements négatifs du milieu.
Voilà, Soupi Niem, on nous appelle de Kalima. Bonjour Soupi. Soupi, bonjour. Il n'est plus en ligne. Fabrice Ingoy de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, mon préoccupation est que je voulais demander sur la question que je voulais poser à votre invité.
Oui, allez-y.
Je parle de parce qu'il a dit que l'élève peut échouer. Mais là, on parle pour le cas pour les élèves de la secondaire. Vous verrez que le professeur a dragué une fille, mais là, quand la fille a refusé, mais là, il peut échouer, là. Mais là, comment un élève dira à la maison, l'élève qui dit à la maison que non, papa, j'ai échoué à cause que notre professeur m'a aimé, m'a dragué, mais là, quelle sera la proposition au niveau du professeur?
Voilà, ça c'est Yahudi.
Mais en fait, il est en train d'évoquer un autre facteur qui peut être à la base de l'échec scolaire, la relation qu'il y a entre l'enseignant et l'enseigné. Vous voyez, cette relation peut être perturbée par le fait de ce qu'il y a de relater là. Mais en face, là, on est en face de quel type d'enseignant? Si ce n'est qu'un irresponsable, si ce n'est que quelqu'un qui ne comprend pas le sens qu'on peut accorder à ce titre d'enseignant, à cette fonction d'enseignant. Mmh. Et il y a un règlement du personnel au niveau de l'école.
Mais la fille n'a pas dénoncé.
Oui, il faut nécessairement que la fille...
C'est qu'elle n'a pas dénoncé.
Oui, il faut nécessairement que la fille puisse dénoncer. Mais souvent, chez nous, ici, nous constatons aussi qu'il y a des filles très faibles, mais qui choisissent toujours cet argument pour dire que j'ai été gradé, c'est pour cela que j'ai échoué. Alors que si vous voyez vous suivez de près, c'est une fille très faible, incapable même d'obtenir la note zéro. Donc la note qu'il peut obtenir c'est moins 1, moins 2.
Oui.
Vous voyez ça? Oui. Donc c'est-à-dire tout cela à cause du fait que la fille peut-être se retrouve dans une classe qui ne correspond pas à ses capacités. Oui. Nous avons beaucoup de cas dans notre milieu scolaire.
C'est vraiment une adaptation.
C'est toujours une adaptation, le fait que qu'on soit mal orienté. Qu'il n'y ait pas d'orientation, qu'il y ait une mauvaise orientation. Chacun veut toujours occuper une classe supérieure à ses capacités. C'est ce qui est anormal.
Il y a même des parents qui fabriquent des diplômes pour leurs enfants.
Mais voyez, c'est ce que je vous dis, que nous sommes une société exceptionnelle. Un parent qui s'investit financièrement pour l'éducation de son enfant, lui-même est en train d'acheter des billets pour son enfant. Vous voyez, on est là en face de quel type d'homme? C'est tout un problème. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit que les Congolais doivent être déprogrammés et reprogrammés. Donc on les déprogramme et puis on les reprogramme. Pour qu'il arrive à comprendre que la charge de l'éducation de son enfant, surtout au niveau de la famille, revient aux parents. C'est les parents qui doivent nécessairement accompagner son enfant de façon à ce qu'il puisse réaliser de bonnes performances au niveau de l'école et qu'il soit utile à la société par le fait qu'il a été envoyé à l'école. Mais si on arrive pas à comprendre que l'enfant qui va à l'école, nécessairement il doit changer, et il doit changer positivement. On n'arrive pas à comprendre cela. On n'arrive pas aussi à décortiquer les éléments qui doivent être à la base du changement positif de l'enfant au niveau de l'école. Alors on doit se comporter de n'importe quelle manière et maintenant on doit commencer à se plaindre.
Le réveil avec Radio Okapi, c'est une session d'information en français. En soi, il y a aussi le Maroc, Congo et en Lingala. C'est aussi des synthèses de l'actualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Okapi. Lorsque les jours se lèvent à 5h, Radio Okapi met le Congo à la une de ses ondes. La matinale de Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Nous parlons des échecs scolaires. Quelles sont les causes et remèdes avec le professeur Jean-Paul Yaoui Manzambi, expert en éducation et professeur à l'Université Pédagogique Nationale. Christian Boukessé nous appelle de Mbandaka et Théophile, je crois bien, Dago de Kananga. Christian, bonjour.
Bonjour, M. Judica. Bonjour à M. le professeur, l'invité de cette partie.
Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Parce qu'il y a des enfants. Excusez-moi, M. Judica, avant de poser ma petite préoccupation, je voudrais faire un petit propos seulement, qui a adressé à M. le professeur ma préoccupation. Il y a des enfants de pas qui restent, non, pas parce qu'ils s'adaptent pas régulièrement, mais c'est parce que peut-être pendant le paiement des prêts exigés, les parents ne parviennent pas à payer à temps, et puis lorsque l'enfant on vient payer en retard, l'enfant a beaucoup perdu, ou c'est rattrapé, je pense que c'est tout à fait compliqué. Par rapport à ma préoccupation est celle-ci. Monsieur le professeur, pour l'enfant qui étudie normalement, il s'adapte normalement, et ses amis l'apprécient. il arrive à un certain moment, cet enfant-là a un problème avec tel ou tel autre enseignant, et à travers ce conflit-là, ça atteint les choses de cet enfant. Comment pouvez-vous nous dire face à cette situation? Est-ce que c'est une adaptation de l'enfant ou c'est ce qui est survenu et ça a atteint le chèque de cet enfant-là?
Merci pour votre question, Théophile Dago de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité. Bonjour, tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute.
Et merci pour la parole. Je trouve que les échecs que nous sommes en train d'enregistrer dans des établissements scolaires, primaires comme secondaires, d'abord, ça provient, selon moi, de la prolification des écoles. Il y a maintenant plusieurs écoles privées qui naissent comme des champignons. Et quand c'est dans ces écoles, il y a maintenant le trafic, ou bien le commerce. Quand un enfant échoue dans une école X, il peut ou ne pas avoir un bulletin, il va se faire inscrire dans une école Y. Et là, il est toujours accepté. Et dans toutes ces écoles, dans le temps, à notre période, on avait le système de palmarès. Vous terminez ici à Kananga au Kassai, dans une école officielle ou encore des réseaux catholiques ou réseaux protestants. Directement, vous allez à Kinshasa, vous sollicitez dans une autre école, et fait sortir votre palmarès de votre école. On trouve bien que vous avez échoué. Mais actuellement, c'est difficile. C'est l'État qui a institutionnalisé ce circuit. L'échec qui ne se termine pas. Vous voyez que dans tous ces paramètres là-bas, l'élève est en train de faire ce qu'il veut, même à l'insu de ses parents. Ça, c'est du 1. Du 2, quand un élève échoue, vous voyez que l'environnement peut faire à ce que l'enfant échoue. L'enfant ne mange pas bien, ses parents ne sont pas payés, il va étudier à une distance, par exemple, d'Ndili à Massina, il peut quitter Massina pour venir étudier à Kalamu. Vous voyez cette distance là-bas, l'enfant peut au départ se fatiguer avant même d'accéder aux activités scolaires. C'est pour cette raison que nous trouvons que c'est notre État qui est en train de nous induire en erreur, qui force maintenant l'activité des chèques dans les écoles parce qu'il n'y a pas de contrôle. Avec ce que nous venons d'épingler, il est difficile de contrôler soit les parents, soit les élèves eux-mêmes, soit les instituteurs ou les professeurs qui dispensent les cours.
Merci beaucoup, Théophile. Merci, Théophile Dago de Kananga. Jacques Alio de Bounia, bonjour. Jacques de Bounia, bonjour.
Bon. La préoccupation concerne les plus l'échec au niveau des institutions supérieures. Je ne sais pas si on peut aussi parler des sujets supérieurs.
Professeur Yaoudi, si on peut, oui, allez-y, posez votre question.
Puisque nous voyons chaque fois, bien sûr, les travaux, on nous remet les papiers, mais si c'est l'examen, on ne remet jamais les papiers. On estime avoir bien travaillé, mais à la fin, vous allez vous retrouver avec des points vraiment, nous considérons imaginaires. Et vous écrivez la lettre de retour, on dit non, la lettre sans objet. L'exemple, cela est arrivé avec moi. Quand j'ai écrit la lettre de recours pour les travaux, le code de travaux qu'on a mal transcrit, et maintenant c'est le secrétaire de jury qui va aller découvrir, il va me dire, mais finalement, tu as réussi, qu'est-ce que tu veux? Examen, tu as ici, sur 10. J'ai dit, non, monsieur. Et c'est à partir de là qu'on va découvrir que le code de l'examen qu'on m'avait donné, c'était 4. Or là, c'était 6. Finalement, dans de tel cas, est-ce qu'il y a autre moyen de nous aider dans de telles conditions?
Merci, Jacques. Merci, Jacques. Alors, professeur Jean-Paul Waïdi, Christian de Boukessé, le premier intervenant, a parlé de si l'enfant échoue, ça peut être parce qu'on l'a chassé de l'école à cause du Minerval, et puis il a raté beaucoup de choses.
Oui, c'est tout à fait normal. Et lui aussi a évoqué un autre facteur qui est lié aux parents. Vous savez, il fallait d'abord expliquer le concept de l'inadaptation. Je dis que l'inadaptation est le fait qu'un enfant ne fait pas ce qu'on attend de lui en classe. Pour un meilleur apprentissage, on attend toujours quelque chose de l'enfant. Il faut nécessairement que l'enfant soit régulier en classe. Mais si l'enfant n'est pas régulier, on doit identifier la cause. Entre autres, comme cause, le fait que l'enfant a été chassé de l'école. Et la non-acceptation de l'enfant par le fait qu'il n'a pas payé les frais d'études est aussi à la base de l'échec scolaire. C'est aussi un autre élément de facteur que vous questionnez à relever, qui est dû au fait que les parents, par manque de possibilités, par manque de moyens financiers, ils n'ont pas pu réunir des moyens suffisants à autant imparti de façon à ce qu'ils puissent permettre à leur enfant de suivre une scolarité normale.
Alors, il a parlé aussi d'un conflit avec un enseignant, un élève qui a un conflit.
Oui, je voulais beaucoup plus insister sur l'apport des parents, parce que les parents doivent aussi comprendre que les études coûtent. À un prix. Il ne faut pas que les parents puissent beaucoup plus être intéressés à acheter des bouteilles de bière à un visiteur, mais qu'ils ne puissent pas voir pourquoi il doit payer à temps les frais scolaires. S'il a des moyens, et il faut voir dans quelle mesure il ne faut pas seulement accuser les autres, mais les parents doivent s'investir, doivent dire, écoutez, je dois fournir un effort. Parce que si mon enfant est irrégulier au cours, ça serait son échec s'expliquerait dans ce contexte-là. Alors, à continuer, maintenant,
un conflit entre un élève et son enseignant.
Mais si un enseignant ne respecte pas ses apprenants, ses élèves, il y a des enseignants qui injurient les élèves. Et l'enfant a besoin peut-être de faire pipi. Demande la permission à l'enfant, à l'enseignant. Je vais sortir un peu, je dois nécessairement faire pipi. Parce que dans une école, il doit aussi nécessairement y avoir des latrines. Alors, mais si l'enseignant ne peut pas comprendre que l'enfant peut être aussi indisposé, peut solliciter aussi une permission, mais il l'humilie au sein de la classe vis-à-vis de ses amis. Vous voyez ce que ça fait? Un enfant est humilié.
Il peut se révolter.
La relation avec le maître est déjà perturbée. Et il peut encore produire des efforts pouvant lui permettre de réussir dans ce cours-là, enseigné et dispensé par cet enseignant.
Voilà, on va aller rapidement. Théophile Dago, à Kananga, a parlé des écoles privées qui affluent comme des champignons. Un enfant qui est ici, il peut aller là-bas. On le reçoit sans problème. On ne recourt plus au palmarès. Et puis, il a parlé aussi d'autres facteurs, l'environnement. Un enfant qui parcourt une longue distance pour aller à l'école et qui ne mange pas bien, tout ça, ça peut influer sur les résultats.
Nous ne pouvons pas décourager les initiatives privées face à l'irresponsabilité de l'État qui ne fait pas construire des écoles officielles, mais qui attend que les autres puissent construire. Mais que ces autres-là, quand ils construisent, mais il faut aussi que l'État puisse contrôler. Mais le fait que non seulement l'État se révèle irresponsable à ne pas construire des écoles publiques, mais l'État aussi se révèle irresponsable à ne pas contrôler les privés. Alors dans ces conditions-là, chacun fait ce qu'il peut faire lorsque chacun sait qu'il est responsable. Vous savez, je donne un exemple. Chaque fois quand j'interviens dans mes conférences, il y a une maman qui a construit une boutique sur la voie publique. Alors les gens sont venus lui dire, mais maman, autombi boutique na balabala batuba ko lekandenge nini na babaka mitu ka ko lekandenge nini. La maman dit, papa, kongo mo bimanatike ibino ka kandambo na zizo tumisabino. Donc le privé peut vous penser aussi le fait que c'est lui qui a investi de l'argent et qui a créé son école et qu'il a, pour lui, il trouve qu'il doit agir de n'importe quelle manière.
Voilà, on va recueillir la question des Zawadi de Bounia et madame Marie de Kinshasa. Zawadi, bonjour.
Bonjour, j'ai dit Daniel Cachan.
Oui, Zawadi, rapidement, quelle est votre question?
Ok, j'ai autant de préoccupations. La première est celle-ci.
Oui.
Actuellement, au niveau de l'école, bon, vous voyez, on envoie un enfant, on parle l'inscrire. Là-bas, au cours d'une année de l'évaluation, on trouve que non, l'enfant devait reprendre la classe. Alors, avec le système actuel que les gens ont de dire figurément ici au monde avec les années, l'enfant a échoué dans une école, il part s'inscrire dans l'autre école et il est accueilli là-bas aussi sans problème, sans même chercher à connaître quels sont les documents valables pour qu'il soit inscrit dans la classe supérieure. Alors, qu'est-ce que le ministère de l'EPST fait pour faire des suivis pour de tels problèmes? Est-ce que l'EPST arrive au moins de sanctionner de tels chefs d'établissement qui reçoivent les élèves sans connaître s'il y avait un document qui lui a permis de monter la classe? Voilà. Deuxième chose,
oui.
Les enfants, par exemple, les enfants, pour un enseignant peut se retrouver, par exemple, à l'école secondaire actuellement, avec un élève bon, qui a peut-être le même âge avec lui, l'élève voit son enseignant comme un son confident, et l'enseignant, quand il veut, par exemple, lui reprocher certaines erreurs, il commet, bon, l'élève voit ça comme des menaces, si bien que l'élève peut arriver, par exemple, à s'enflammer contre l'enseignant, alors qu'est-ce que l'enseignant peut arriver à faire pour amener l'élève là à la raison?
Merci, Zawadi. Madame Marie de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, madame.
J'ai trois préoccupations à adresser à l'invité.
Oui.
Premièrement, est-ce que l'âge scolaire de l'enfant peut influencer sa réussite à l'école? Parce que j'ai une fille de 4 ans, je trouve qu'elle est vraiment éveillée. Je voudrais qu'elle puisse commencer la première primaire. Mais il y a un enseignant qui m'a découragée pour dire elle peut être bloquée quelque part dans son parcours scolaire. Et deuxièmement, je l'ai suivi, il n'était pas d'accord sur le système d'évaluation par le point, donc le bulletin.
Oui.
Est-ce qu'il y a une proposition efficace à la place? Et en troisième lieu, les écoles qui naissent dans des coins vraiment périphériques, hein, où la présence de l'État n'est même pas là.
Oui.
Mais il y a certaines initiatives privées qui sont prises, soit par des anciens enseignants, soit par des anciens inspecteurs de l'enseignement, pour pouvoir encadrer les élèves, même à des conditions qui ne sont pas très très bonnes. Alors, faut-il décourager ces initiatives-là ou les encadrer? D'autant plus que la présence de l'État n'est pas là dans ces milieux.
Merci Madame Marie, professeur
Yaoundé. Merci, je dois commencer par répondre à Madame Marie de Kinshasa.
Mm-hmm.
Et lorsqu'elle pose le problème en rapport avec l'âge d'un enfant, vous savez, Maman Marie, à Kinshasa, on a toujours dit que nzungu na mufini kuna yango. Vous voyez l'enseignement tel qu'il est réalisé au niveau de l'école, et on élabore un programme de formation. Le programme de formation qu'on élabore, c'est en fonction des caractéristiques psychologiques d'un enfant. Et c'est pour cela que vous allez même voir que pour une leçon, on dit que la durée pour, au niveau de l'école primaire, c'est 30 minutes. Au niveau peut-être de l'école secondaire, c'est 50 minutes. Et à l'université, c'est 2 heures du temps.
Donc, on est
tenté de tenir compte des caractéristiques psychologiques d'un individu.
Oui.
Alors, maintenant, pour son enfant, j'ai donné déjà une partie des réponses. Mais pour cet enfant qui est âgé de 4 ans, que lui trouve éveillé, en fait, normalement, on dit qu'il devrait amener son enfant dans un cabinet de consultation psychologique. Il y en a, nous en avons un au niveau de l'IEMBA pour qu'on identifie si son enfant est surdoué ou est génie, de façon à ce que c'est possible d'accepter que cet enfant puisse commencer la première année primaire. Mais souvent, on constate que ce sont les parents qui font de leurs enfants des surdoués, alors qu'on ne peut pas faire de quelqu'un surdoué. Et on lui donne des travaux, on lui donne des exercices, alors que son âge ne permet pas cela. Alors, mais c'est le parent qui fait de lui un surdoué, et il pense que de cette manière-là, l'enfant doit l'amener en première année primaire. Mais c'est possible qu'un enfant de 4 ans puisse être inscrit en première année primaire. C'est possible s'il est surdoué, s'il est génie. Mais si c'est les parents qui font de lui surdoué, l'enfant connaîtra des problèmes.
Elle a parlé aussi du système d'évaluation. Vous ne voulez plus le système supprimé? Qu'est-ce que vous pensez?
C'est ce qui pose des problèmes. Je suis en train de dire, lorsqu'on dit que quelqu'un a obtenu 60%, 50%, 55%, 65%, on dit que c'est la réussite. Alors moi, je dis non. C'est ce qui nous pose des problèmes. Il faut nécessairement que les choses soient définies en termes de capacité. Si j'ai donné un exemple, je dis que si un enfant a obtenu 7 sur 10 en qualité à quelqu'un écrit, vous qui êtes parent, vous avez le bulletin, vous voyez que c'est 7 sur 10. Mais vous concluez pour dire que c'est la réussite. Moi, je dis non. Il faut savoir qu'en qualité écrit, il y a 4 opérations fondamentales. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Vous devez savoir, mais pourquoi l'enfant n'a pas obtenu le maximum? Peut-être l'enfant s'est révélé fort.
Donc, on doit mettre sur ce système de points, plutôt voir les capacités des
enfants. Oui, définir les choses en termes de capacités. C'est pour cela que nous sommes très contents que les conseils d'orientation soient affectés dans les écoles.
Oui.
Tenter normalement qu'ils doivent aider à ce que tout se passe, se définisse en termes de capacités.
Alors,
et que nous sollicitons
oui.
de nos bulletins.
dans nos bulletins scolaires qu'on puisse réserver une place à un avis d'orientation. C'est ça, le changement que nous voulons dans notre bulletin scolaire.
Voilà, et elle parle aussi de certains enseignants, quelque part dans la périphérie, qui a pris l'initiative de démarrer, de faire fonctionner une école, bien qu'il n'y a pas de moyens, c'est dans des conditions difficiles. Faut-il décourager cette initiative ou l'encadrer?
Mais avant que l'école ne soit venue avec dans son caractère occidental, mais au niveau de nos villages, des papas avaient réunissé aussi des enfants de façon à ce qu'ils puissent leur raconter l'histoire du village, ce qui s'est passé. Tu vois, de tels enseignements. Mais nous sommes maintenant dans le contexte de la modernité. Comment les choses doivent se passer? Peut-on ajouter des ordinateurs à quelqu'un qui est au village? Peut-on faire ça? On doit tenir compte de comment un ordinateur peut fonctionner, quelles sont les exigences. Nécessairement, il doit y avoir l'électricité.
Mais l'initiative de cet enseignant-là, il faut encourager.
L'initiative est encouragée, mais on ne peut pas placer les enfants dans n'importe quelle condition. Parce que c'est une initiative, alors il faut permettre à ce que les enfants étudient à même les sols, que les enfants soient à plat ventre et suivre ce monsieur qui enseigne sans craie, sans tableau.
Voilà. Zawadi Abounia qui parle d'un enfant qui échoue ici, il va dans une autre école, on le reçoit sans problème, et il demande, mais est-ce qu'il n'y a pas de suivi par rapport à ça?
La responsabilité est partagée. On ne peut pas seulement accuser les chefs d'établissement, mais les parents qui savent que son enfant a échoué. Pourquoi il doit permettre à ce que son enfant aille et s'inscrit dans une classe supérieure?
Je pense que parce qu'il ne veut pas que son enfant reprenne des classes.
Mais c'est parce que le parent est ignorant. Il ne sait pas que l'enfant, pour mieux réussir dans une classe supérieure, il doit avoir les prérequis. Les prérequis qui lui permettent de réussir. Je donne un exemple. Pour que l'enfant puisse mieux maîtriser l'arithmétique, l'addition, 1 plus 1 égale combien, 2 plus 2 égale combien, 3 plus 3 égale combien, il faut nécessairement que l'enfant puisse savoir compter de 1 à 10. C'est alors qu'on doit lui apprendre maintenant à calculer. Mais si l'enfant n'a pas ses prérequis, le comptage, comment voulez-vous qu'il puisse mieux additionner ou bien soustraire? Donc, il faut considérer l'exigence des prérequis. Le papa ou la maman ne doit pas s'intéresser seulement à la taille de son enfant. Moi, on en a à colis. Au moins, ça va nous demander, il faut attirer la peste. C'est bien, c'est vrai. Les retards pédagogiques aussi peuvent être à la base de l'échec scolaire. Parce qu'un enfant qui reprend des classes, il pense que c'est tout fini et lancé, il pense que c'est lui qui doit être le chef de classe. Alors, le maître peut lui poser des questions, il refuse de répondre aux questions du maître parce qu'il s'est dit, c'est petit ici dans cette classe ici, il risque de se moquer de moi si je donne une mauvaise réponse. Mmh. Vous voyez, tous ces éléments-là doivent être étudiés par des spécialistes, de façon à ce que nous puissions nécessairement faire en sorte qu'il y ait des vraies réussites et qu'il y ait aussi des vrais échecs. Et l'échec, c'est un symptôme qui indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. On doit identifier la chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas seulement supposer, mais les vrais, identifier les vrais.
Voilà, professeur Jean-Paul Yahoui de Manizabie, expert en éducation, professeur à l'Université Pédagogique Nationale. On va peut-être continuer une prochaine fois. Merci.
Merci.
À la prochaine.